18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver. C'est parti pour une toute nouvelle semaine, chers amis auditeurs. Bonsoir Anthony.
Bonsoir Adil, comment vas-tu?
Très bien, tu as passé un bon week-end?
Excellent, et toi?
Ah, super, super. C'est parti au sommaire de cette émission, vous le savez. Eh bien, Anthony, c'est notre réalisateur, hein, c'est lui qui prend vos... qui fait tout, hein, il fait tout ici, c'est l'homme à tout faire.
C'est et exactement ce que j'allais dire.
Et il le fait excellemment bien. Donc bravo Anthony.
Merci bravo. Beaucoup Adil.
Allez, dites-moi, il est 18h, c'est parti tout de suite jusqu'à 19h30. Nous sommes ensemble pour commenter, vous le savez, décrypter, mais surtout analyser l'actualité. Alors, au menu ce soir, ce que je vous propose. Tout d'abord, nous irons en direction, vous savez, Val-de-Marne, où un adolescent de 16 ans, poignardé à mort dans une rixe, juste devant son lycée. Terrible. La question que je poserai, puisque j'ai un invité qui est avec moi, que vous connaissez très bien, que vous aimez d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aussi le porte-parole de la police indépendante. Il sera avec nous dans une poignée de secondes pour répondre à cette fameuse question. Aujourd'hui, les mineurs sont-ils de plus en plus violents? On posera la question. Et puis, j'ouvrirai l'antenne au 01 53 48 3000. Voilà, on va y arriver. Vous nous appelez et vous passez en direct à l'antenne parce que, et figurez-vous que je voudrais qu'on parle de ce lycée, de cette malheureuse, évidemment, entre bandes, hein, cette fâcheuse, hein, cet adolescent de 16 ans, donc poignardé. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous avez peur pour vos enfants? Est-ce que vous êtes prudent? Est-ce que vous veillez sur eux? C'est la question que je vous pose. Et puis, on parlera de jeudi prochain, la réforme qui s'annonce, donc des retraites avec la mobilisation massive des syndicats, mais également de toute la France. Et vous, vous en pensez quoi? Vous dites quoi? Parce que là, on parle des médecins, des infirmiers, du personnel soignant, des pétroliers, des syndicats, des gilets jaunes, même des black box. Bref, tout le monde s'y met. Et vous, vous en pensez quoi? 0153483000, je vous attends donc plus précisément, Anthony vous attend au standard pour venir en parler avec nous, donc en direct. Et puis tout à l'heure à 18h30, Maître Franck Serfati viendra nous livrer son regard sur le Quad 9 et puis ensuite les débatteurs influenceurs, comme tous les jours, viendront confronter leur point de vue. C'est parti, c'est tout de suite, c'est maintenant et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et c'est parti, tout de suite, pour l'interview du jour.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, vous le savez, ce soir, c'est avec Jean-Pierre Colombiès, je vous le présentais tout à l'heure. Bonsoir, mon cher Jean-Pierre.
Bonsoir Adil et bonsoir à tous les auditeurs.
Comment ça va, mon cher Jean-Pierre Colombiès?
Ça va fraîchement.
Fraîchement, hein?
Fraîchement, socialement
le,
aussi.
Le froid, paraît-il, nous pénètre cette semaine.
Bah écoutez... c'est une vue de l'esprit, j'imagine.
Oui.
Et puis il est humide, le froid aussi.
Oui, donc, bah,
il y a du
vent.
Oui.
J'avais envie d'imager.
Ouais, bah c'est...
pour réchauffer un peu.
Ça mérite deux clochettes.
Ça mérite deux clochettes, c'est ça, pour réchauffer.
C'est parfait pour le bêtisier, Adil.
Vous avez, l'esprit mal placé.
Bah, je dois pas être
moi,
tout
je parle
seul,
le français est correct. Ouais. Et vous venez, vous.
Oui, c'est le français.
Pour la peine, vous avez le droit à une deuxième tournée du thé. Parce que là, je crois que vous avez besoin que je vous réchauffe un peu.
Ah, je vous confirme, j'ai besoin, oui.
Allez, Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également aujourd'hui le porte-parole des policiers indépendants. Dites-moi, vous avez suivi cette affaire, donc dans le Val-de-Marne, où un adolescent de 16 ans poignardé à mort dans une rixe devant un lycée à Thiers. Terrible, ça remet en cause, vous savez, plusieurs interrogations. D'abord, vous réagissez comment, mon cher Jean-Pierre Colombiès? Ça relance le débat. Hein.
Oui, non, mais on se pose toujours les mêmes questions. Bon, bien évidemment, on ne peut pas ne pas penser à la famille qui subit ce drame, quoi. Un gamin tué devant son collège, enfin, ça n'a pas de sens, et en même temps, ça répond à une dynamique qu'on condamne trop souvent, parce que ça arrive maintenant régulièrement. Il y a effectivement des gamins qui n'ont plus d'interdits, qui n'ont plus de barrières. La violence se banalise. On sort un couteau, comme à l'époque on se donnait peut-être une paire de gifles. Et ben là, pour être plus fort, pour se sentir plus fort, pour être invincible, on sort un couteau et on plante et on tue. Et ça, c'est absolument catastrophique. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle à court terme.
Un qui est mort et l'autre qui a succombé à ses blessures, hein.
Un seul a succombé à ses blessures, et l'autre qui est blessé.
Et il y en a un qui est mort.
Donc ça fait deux morts.
ça fait un mort.
Un seul qui est décédé.
Un jeune de 16 ans, donc, qui a été interpellé. Un adolescent est mort des suites de ses blessures, et un autre qui a été blessé.
Voilà, c'est ça.
Au cours d'une autre risque.
Un mort suffit largement. Un mort suffit largement.
Mais la question que je vous pose aujourd'hui, c'est quand même tout de même, on s'interroge. Hein, ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que quand on est mineur, est-ce que les mineurs sont de plus en plus violents?
Voilà. Oui, la et réponse est oui.
Et comment ça s'explique aujourd'hui d'ailleurs?
Dire le contraire, ce serait, se masquer des réalités qu'on n'aime pas voir, qu'on n'aime pas constater. Mais c'est, oui, on en arrive là. Pourquoi? Mais tout simplement parce qu'il y a une forme de sentiment, de conviction que tout est permis, qu'il y a une forme d'impunité absolue, totale, quoi que l'on fasse. Et bien évidemment, parfois, malheureusement, c'est le parcours d'une délinquance, déjà bien affirmée. C'est souvent le fait de gamins qui ont déjà commis plusieurs infractions et qui se sont retrouvés devant une absence totale de réponse, soit pénale, soit familiale. Et donc, à partir de là, c'est l'escalade. Et ça commence par des agressions, des petites agressions, des vols, des petits vols, des moyens vols. On monte dans la délinquance et on finit par sortir un couteau.
Mais qu'est-ce qui fait qu'on monte d'un cran d'une violence?
L'impunité
de quoi? Est-ce qu'il y a un manque d'autorité de l'État, par exemple? On va prendre le temps de vraiment d'analyser cette actualité. Mmh. Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Est-ce que c'est les parents?
C'est un peu tout ça.
Est-ce que c'est l'autorité de l'État? C'est qui?
C'est un peu tout ça. Ça commence effectivement par un manque de repères total au niveau de la famille, au niveau de la structure familiale. Alors, je ne sais pas exactement quel est le cas du gamin qui a poignardé, hein, de l'auteur du crime, mais il est fortement probable qu'il n'ait pas au sein de la famille une autorité qu'il respecte et qu'il écoute, et donc il se sent le maître du monde. Il n'y a pas de réponse judiciaire, parce qu'il a commis probablement, j'ai vu ça très rapidement, il faudrait connaître vraiment le dossier dans sa profondeur, il a commis des infractions préalables, et le problème c'est que lorsqu'il y a des décisions de justice les concernant, ces mineurs, bien souvent les structures susceptibles de les accueillir, je pense à ces lieux de détention pour mineurs, sont insuffisamment dotés. Il n'y a pas suffisamment de places, il n'y a pas suffisamment de suivi dès lors qu'un gamin franchit la ligne rouge.
Ouais.
C'est une réalité. C'est une réalité, une triste réalité. On est confronté à ça. Et aujourd'hui, un gamin l'a payé de sa vie. Et c'est inentendable. C'est inentendable d'être aujourd'hui au 21e siècle dans une situation où partout en France, pas qu'à Thiers, partout, des gamins sont comme des bêtes sauvages en quête de violence.
J'entends ce que vous dites. Hein. Comment peut-on lutter justement contre cette contagion de la violence qui, permanence, vous savez quoi, est relayée par les réseaux sociaux?
Ben oui, ça commence là déjà, ça commence là. Il y a une sorte de promotion à l'acte violent.
Ah oui, c'est ça.
Oui. Et on le sait, il y a une promotion à l'acte de violence, et celui ou ceux qui en bande ou seuls vont exhiber leurs faits d'armes sur les réseaux.
Parce que tout ça, ça se retrouve sur les réseaux sociaux.
Mais bien évidemment. Et il y a une prime à ça, puisque tout le monde suit ça. Et s'il n'y avait pas de succès par rapport à ça dans cet environnement, il ne le ferait pas, tout simplement.
On en oublie qu'il y a mort. Et on est plutôt dans du voyeurisme. Vous répondez quoi?
Complètement, oui. On est dans une société, mais c'est une société complète qui s'est mise dans cette situation de voyeur. Il suffit de le voir. Qu'est-ce qui fonctionne bien sur le réseau? Ce sont les images où il y a des crashs, des accidents, des actes de violence. C'est ça qui fait le buzz et c'est ça qui attire l'attention. On ne sera pas intéressé. Enfin, quand je dis ceux qui suivent ça avec attention ne seront pas intéressés. Mmh. Si vous avez des actes de bienveillance ou quelqu'un qui fait une bonne action, ça marche pas trop.
01 53 48 3000, vous savez, je vous sollicite, chers amis auditeurs, partout en France. Si vous venez de nous rejoindre, sachez-le, je vous attends. Anthony vous attend au 01 53 48 3000, je vous attends. Une question qu'on vous pose évidemment, est-ce que vous avez peur pour vos enfants? Ce phénomène de bande, ce phénomène justement où chacun règle ses comptes à sa manière, cette société qui est en train de nous expliquer, hein, Jean-Pierre Colombier, c'est évidemment avec à qui la faute? Est-ce que les mineurs sont aujourd'hui de plus en plus violents? On en parle et puis on parlera aussi de ce sujet de jeudi prochain. Cette manifestation qui s'annonce d'ores et déjà, vous savez quoi, massive. Malika du 95, bonsoir Malika.
Bonsoir.
Bonsoir, oui. Bienvenue. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, ma chère Malika?
Je travaille, je suis auxiliaire de périculture et je travaille dans une crèche.
Bienvenue.
Je serai gréviste.
Bienvenue
à
vous.
Le jeudi.
Vous serez gréviste jeudi.
Inch'Allah, oui.
Vous êtes en colère?
Oui.
Révolté?
Très.
Vous êtes beaucoup, hein, très nombreux à être révoltés.
On sera au moins deux sur ce plateau.
Et pour la retraite, ouais.
Qu'est-ce que vous voulez parler de quoi avec Jean-Pierre Colombiès?
Je voulais parler de la fille qui était poignardée aujourd'hui au lycée.
Oui, oui. Oui.
C'est arrivé le vendredi, le vendredi passé, à Gages-lès-Gonesse.
Oui. Vous habitez dans le 95 et où dans le 95
À Gages-lès-Gonesse.
Ah, bah, c'est pas très loin de chez vous, ça.
Oui, c'était arrivé le vendredi passé à midi, à midi 40.
Oui.
Il y avait un garçon de 16 ans qui était poignardé aussi. Il était poignardé sur le dos et trois coups de couteau dans la, la
devant devant son lycée, hein. C'est ça qui est
devant le lycée, devant, mon lycée. Fils, devant le lycée.
Et votre fils quoi? Attendez, c'est intéressant.
Une autre agression
mon
là.
Fils, mon fils, il est dans ce lycée là et ça me fait peur. Ça me
on
fait
parle de Thiers là, hein?
Non.
Pardon? Non, c'est pas Thiers. Vous nous parlez d'une autre affaire?
Une autre affaire, je vous
dis. Ah bon, oui,
c'est, ça, oui,
c'est terrible ce que vous dites là.
Le,
Jean-Pierre,
le,
il a raison, Jean-Pierre.
Oui. Le garçon, il n'est pas décédé, mais il y avait la police, il y avait l'ambulance. Il y avait
mais on va où comme
ils
ça
ont annulé.
Qu'est-ce qu'il vous a raconté, vos fils? Ils vous écoutent, Jean-Pierre. Parlez avec Jean-Pierre, justement, parce que.
Vous savez, mon fils, il est dans ce lycée-là. Il était vraiment choqué.
Mais il y a de quoi, oui. Il y a de quoi.
Il était choqué, choqué. Hein. Il a vu le sang, il a vu les pompiers. Et moi, je travaillais et après, j'ai eu l'info le soir. Il m'a dit qu'il n'y avait pas école.
Mais qu'est-ce que c'est que ce phénomène là où chacun règle ses comptes, Jean-Pierre Colombiès là? Quand on entend Malika hier, il nous racontait. Moi, je pensais qu'elle me parlait de Thiers.
Non, non, mais elle parle d'une autre agression. Mais comme je vous disais,
Non, le vendredi.
Non, mais on a bien compris, Malika, mais Jean-Pierre, c'est quoi
mais c'est, Adil,
c'est quoi ce fléau qui
Adil, c'est ce que je disais il y a quelques instants. C'est pas qu'à Thiers. À Thiers, ça se traduit malheureusement, affreusement par la mort d'un enfant, mais ça arrive partout, malheureusement. On assiste à une forme d'ensauvagement d'une catégorie de jeunes qui se croient tout permis, qui s'autorisent tout et qui sont.
Vous êtes d'accord, Malika, avec ce que dit Jean-Pierre Colombier, c'est-à-dire ils se croient tout permis?
Oui, je ne sais pas si c'est les réseaux sociaux, si.
C'est un peu tout.
La vie humaine, elle n'a pas. Pour les jeunes, elle n'a pas de sens. Ou,
c'est ça, oui,
je comprends pas.
Ça.
On comprend pas.
C'est-à-dire l'autre n'a pas d'existence par rapport à celui qui fait ça, qui commet l'acte de violence.
Et il énerve, je sais pas, c'est un petit truc. Ils sont venus une bande de 7 ou 8 cagoulés, ils l'ont poignardé, ils l'ont laissé par terre, ils sont partis en courant.
Ils l'ont filmé,
voilà.
Ouais.
Non mais c'est au-delà du réel, quoi.
C'est rencontre quand même. Hein.
Oui, non, mais c'est et malheureusement, ça se produit.
Je voulais qu'on parle de ça ce soir. C'était le thème que j'ai retenu avec Jean-Pierre Colombès. J'aime bien, avant de lancer les sujets, justement, qu'il puisse converser avec vous.
Et quand j'ai entendu aujourd'hui, il y avait la même chose. Et je crois que c'est une fille qui a été poignardée aujourd'hui, c'est ça? Dans le 94.
En tout cas, à Thiès, non, c'est un ado de 16 ans.
Oui, c'est ça. Un ado, d'accord. Parce que moi, j'ai eu l'info par mes collègues et. Et j'ai pas bien compris, peut-être. Voilà, et ben voilà. Et ben c'est un gamin de 16 ans aussi à Gages-lès-Gonesse le vendredi.
Vendredi dernier. Eh bien. Ben écoutez, non, mais venez exprimer évidemment tous ces témoignages que vos enfants vous racontent là. Donc évidemment, j'ai bien compris que votre
ça nous fait peur. Franchement, ça nous fait peur.
Il y a de quoi,
Moi, vous avez peur pour qui? Pas pour vous, pour votre fils.
Pour mon fils, pour même pour, c'est malheureux pour les mamans pour je sais pas pour les la maman les parents de le gamin qui est décédé aujourd'hui pour les enfants qui vont je sais pas ils vont rentrer en prison tout ça c'est je sais pas c'est franchement
mais non mais le problème si je me permets de vous interrompre le problème il est là. C'est que même si on les arrête, on les arrêtera probablement, ils seront identifiés, mais le problème, c'est la réponse pénale. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on sait à peu près qui c'est, enfin, j'imagine qu'on va vite le savoir, c'est pas non plus c'est pas des caïds, hein, c'est pas des parrains de la mafia, hein, c'est juste des gamins qui se promènent en bande, on les connaît, et ils sèment la terreur en toute impunité. Et ça, c'est un vrai problème de société aujourd'hui.
Oui. Merci Malika d'être intervenue.
De rien, bonne soirée. J'aime bien votre émission, hein. Franchement, je l'écoute.
Tous les jours.
Dans mon trajet à chaque fois.
Écoutez, ça fait plaisir.
La sortie de mon travail.
Ça fait plaisir. Restez fidèles surtout et parlez-en autour de vous.
Merci, c'est gentil. Allez, bonne soirée.
Bonne soirée. Et tiens, mais Mélissa qui nous appelle du 95, pareil, même ville, ensuite Ada de Paris. Bonsoir Mélissa.
Oui, bonsoir.
Bonsoir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mélissa?
Je suis retraitée.
Vous nous appelez de quelle ville?
Moi, j'appelle de Pontoise.
Pontoise. On vous écoute, Mélissa. Jean-Pierre Colombiès vous écoute.
Alors, Jean-Pierre, à l'instant, disait que ce n'était pas la mafia. Moi, j'appellerais ça une petite mafia. qui est responsable.
Je crois qu'il va pas être d'accord avec vous. Mais bon, je vais le laisser
c'est
parler.
C'est pas grave.
Allez-y, allez-y, exprimez. Exprimez.
Les petits caïds, voilà, on va dire. C'est ça que je cherchais le mot. Bon, parce qu'ils jouent aux petits caïds. Le problème est le gouvernement, nous aussi, on est responsable de la société. Et, bon, je dirais que nous avons plus d'autorité sur nos enfants. Avant, un enfant, quand il faisait une bêtise ou n'importe, moi la première, hein, on rentre à la maison, je vous assure qu'on n'en faisait pas une autre. Mmh. Parce que, on avait un aller-retour. Vous allez me dire, ce sont des enfants battus et tout ça. C'est pas vrai. Hein, une claque, on n'a jamais tué personne. Maintenant, on n'a plus le droit de disputer les enfants.
Vous savez quoi, Mélissa, restez en ligne. Je dois lancer la pub. Ne bougez pas, restez avec nous, à tout de suite.
Il y a une réaction.
Non, mais il y a une réaction. Justement, restez avec moi, restez avec nous surtout, Mélissa. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Jingle.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
J'aime bien surprendre Anthony, 18h22. Jean-Pierre Colombier, c'est notre invité. Il est avec nous ici. Il répond à vos questions. Mélissa, je vous retrouve. On vous retrouve justement. Attendez, juste, oui. Vous savez quoi? Jean-Pierre Colombier souhaiterait préciser sa pensée concernant la mafia. Jean-Pierre Colombier, ensuite Mélissa.
Oui, vous avez dit que pour vous, c'était, ça s'apparentait, ce que soit quoi on assiste, s'apparente un petit peu à la mafia. Moi, je dirais pas ça. Je dirais plutôt que soit quoi on assiste, c'est ce qui est glorifié dans certaines séries télé et dans certains films, c'est le phénomène des gangs.
Voilà, des gangs, voilà, exactement. C'est ce que je voulais dire. Voilà, la mafia, les gangs.
Voilà. Et il y a cette forme de glorification où on est des durs lorsqu'on a, on n'a pas peur, de faire du mal à l'autre, de le poignarder, de le flinguer, en fait, de faire du mal, quoi, tout simplement. Et ça, c'est typique à une culture américaine, qui nous vient des USA.
Exactement. Et c'est l'Amérique avec les armes bientôt.
Voilà. Et c'est ça, et c'est dramatique.
Oui.
C'est couplé avec une absence, une diminution, un affaiblissement total de l'autorité parentale qu'on a saboté dans ce pays avec des lois où on a réprimé les parents qui osaient réprimander leurs enfants.
Mélissa, à vous. Mélissa, qu'est-ce que vous vouliez? Vous vouliez finir évidemment ce que vous étiez en train de nous développer à l'antenne.
Voilà, donc, moi, on a enlevé l'autorité aux parents.
Oui.
On a enlevé l'autorité.
Et Jean-Pierre Colombiès réclame le retour de l'autorité des parents.
Mais complètement, oui.
Exactement, oui. Parce que nous, avant, vous allez me dire tout le temps dans le temps, non.
Ne soyons pas non plus nostalgiques. Hein.
Non, mais toute la société est responsable. Quand on voyait un enfant qui faisait une bêtise, qu'est-ce qu'on faisait?
Prenez une baffe.
Pourquoi?
Je vous le dis, moi, quand j'étais gamin, j'ai pris des baffes.
Oui, moi aussi. Et donc, à partir du moment où un voisin, je suis sûr qu'il ne fallait pas qu'il nous voit dans une rue, qu'on devait être dans une autre rue. Mais on avait le droit de recevoir une baffe par le voisin, d'un oncle, d'une tante ou n'importe. Maintenant, allez parler à un enfant, le père ou la mère va vous dire, mais de quoi tu te mêles?
Ouais, c'est pas de quoi je me mêle, c'est je vais m'adresser au commissariat plutôt.
Bah oui, mais c'est pas le but du jeu.
Moi je l'ai entendu, hein.
Ouais, mais c'est pas le but du jeu. C'est pas le but du jeu.
Donc on a retiré l'autorité parentale, tout simplement. Voilà.
Toute l'autorité des parents.
Ça provoque ce qu'on appelle l'anarchie.
Tout à fait.
Voilà.
Plus de règles, plus rien.
Voilà. Alors les enfants, quand ça va pas, on les met à la DAS, on donne l'autorité aux juges, à tout le monde, sauf aux parents.
C'est une catastrophe.
Mélissa, il faut que j'avance. On a beaucoup d'appels.
Oui, justement. Bon, d'accord. Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que sinon, on va partir.
Merci.
Allez, au revoir. Et vous, merci, au revoir.
Merci pour votre fidélité. Il y a Ada qui nous appelle de Paris. Bonsoir, Ada.
Coucou, bonsoir.
Comment ça va? Vous avez l'air joyeuse.
Non, je ne suis pas joyeuse, je suis très triste. Je souhaite d'abord, avant tout, mes condoléances aux familles.
Oui, vous avez raison. Qu'est-ce que vous faites dans la vie d'abord, Ada?
Rien pour l'instant.
Rien. Bon, on vous souhaite de trouver quelque chose. Faites un appel. Sait-on jamais?
Non, ça va aller. Merci.
Non, ça va aller. Je suis très bien comme je suis. C'est parfait.
Mais voilà. Avant toute chose, je souhaite mes condoléances aux familles.
Oui.
Et deuxième chose, il faut savoir une chose, c'est que avant, il y a très longtemps, quand c'était ma génération, donc j'ai 35-36 ans.
Vous êtes jeune,
hein? On avait des centres aérés, on avait des choses qui appartenaient aux mairies où on pouvait aller passer du temps, jouer, etc. Et maintenant, en fait, on n'a plus tout ça. Aujourd'hui, les mairies sont restreintes. Les enfants sont un peu abandonnés, les jeunes sont abandonnés, surtout dans les quartiers défavorisés. Et il faut savoir que ça, qu'est-ce qu'ils font?
Ouais, non, enfin, ouais, mais c'est pas une excuse à tout. Excusez-moi,
non,
mais
c'est, non,
pas,
c'est pas une excuse. C'est pas une
Jean-Pierre Colombiès, Jean-Pierre Colombiès. Adressez-vous à Ada, elle s'appelle Ada.
Oui, oui, bonsoir, Ada. Justement, faut pas tomber dans le piège de l'excuse permanente. Moi, j'ai grandi dans des quartiers très populaires, dans les quartiers
à Marseille.
Dans les quartiers nord de Marseille.
Jean-Pierre Colombiès.
Exactement, dans ce qu'on appelle les cités béton. Il y avait pas tout ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'il y avait pas d'organisation, il y avait rien. Et pourtant, il y avait des parents qui tenaient leurs enfants. Moi, comme Adil, j'ai pris des tartes aussi. Dès que ça partait un petit peu de travers, les parents étaient là et on n'allait pas les pourchasser par des lois complètement stupides pour les empêcher d'exercer l'autorité parentale. Et ça commence là. Donc dire qu'il n'y a rien
oui,
pour
mais
les occuper...
aujourd'hui, quand on touche... Alors, excusez-moi, je vais vous couper. Mais aujourd'hui, quand un enfant de 6 ans... Moi, j'ai déjà eu l'exemple avec des enfants de mes amis. Quand elle dit, ouais, je vais te mettre la fessée. Bah, vas-y, mets-moi la fessée, tu vas voir. Je vais aller dire à la prof, on va le dire à l'assistante sociale.
Oui, mais c'est ce que je dénonce. Répondant. Mais c'est ce que je dénonce. Enfants, c'est ce que je dénonce, justement, si vous avez...
Mais ce que je veux dire, c'est que, mis à part... l'autorité parentale, il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'abandon, monsieur, et je suis désolée, qui sont déscolarisés, et justement, ils influencent les enfants qui sont scolarisés,
mais ça, on est bien d'accord.
Encore de tenir bon.
Vous répondez quoi, Jean-Pierre
Colombiès? Oui, mais je suis totalement d'accord, c'est ce que
vous
je disais.
D'accord avec Ada?
Bien sûr, oui, mais bon. C'est ce que je disais aussi, c'est que lorsqu'il y a des jeunes déscolarisés et qui parfois ont un parcours de délinquance, il n'y a pas de relais, il n'y a rien derrière. On ne les tient plus. On ne les tient plus.
Oui.
Tout simplement.
Oui, mais aujourd'hui, c'est pas un cas isolé, hein. Il y en a beaucoup dont on parle pas. Encore un exemple, il y a quelques mois de ça, j'arrive devant chez mes parents, et je vois un jeune qui est en train de se faire tabasser par 20 personnes. Il a fallu qu'une maman et moi se mettons entre ces jeunes-là qui ont entre 12 et 15 ans. On ne serait pas là, je pense qu'il serait mort.
Mais c'est ce que je disais. Très chère madame, c'est ce que
je veux dire, c'est pas des cas isolés. Il y a énormément de cas.
Nous sommes bien d'accord.
C'est malheureux pour la famille du petit jeune qui est décédé. C'est pas le premier, ça sera pas le dernier. La solution, c'est pas en incriminant les parents non plus.
Parce non, mais c'est pas ce qu'on a dit. C'est
rien.
C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit que les parents étaient seuls responsables.
Oui,
on n'a jamais dit ça.
D'éducation. Faut pas croire, il y a des parents qui donnent de très bonnes éducations, mais les enfants, ils sont complètement paumés.
Ils sont paumés et ils sont paumés.
Les jeux vidéo sont des jeux extrêmement forts qu'il faudrait interdire dans nos pays parce que ça un appel à la violence.
On est tout à fait d'accord.
Aujourd'hui.
C'est exactement ce que je disais tout
le temps. Ils ne devraient pas être vendus, certains jeux.
Mais écoutez-le.
Ada, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, si vous avez entendu. Il y a actuellement des raisons, c'est multifactoriel, il n'y a pas une raison, il y en a plusieurs. Et ce que vous avez décrit là, un seul contre 20, c'est ce qu'on appelle un phénomène de meute ou de gang qui s'attaque à une seule personne. C'est totalement lâche. Et ça n'a pas de justification.
Exactement.
Autrement
Exactement.
Que par la volonté de faire du mal, tout simplement. Mais
oui,
la raison qui amène à ça, elle est multifactorielle. J'ai cité l'autorité des parents, mais il n'y a pas que ça.
Ah, mais bien sûr. Il n'y a pas que ça. C'est comme
c'est
le cas qui a eu, je crois que c'était Nice ou Cannes, les trois garçons qui avaient tabassé limite à mourir une personne très âgée.
Oui, tout à fait, oui. Exactement.
Comme son père qui est sorti, mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est pas de la faute du père. C'est pas lui qui incite son enfant à aller s'en prendre à des personnes vulnérables et plus âgées ou leur faire du mal. C'est un effet de mode. Attention,
oui, parce que c'était diffusé. L'agression dont vous parlez a été ensuite diffusée sur les réseaux sociaux. Parce qu'ils s'en glorifiaient.
Exactement. Donc, j'ai envie de vous dire, à un moment donné, c'est pas la faute des parents. Il y a des jeunes, c'est pas de leur faute aussi, parce que je pense que.
Ah, on l'a pas forcé à agresser une vieille dame.
Oui. Non, mais bien évidemment, mais oui. Je veux dire, c'est.
Bon, un peu de sa faute quand même.
On peut chercher la raison autant qu'on veut, on la trouvera pas, parce que, comme vous dites, c'est une multitude de raisons. Il faut associer ça. Je pense qu'il faut en parler.
Oui, non, mais Ada, on l'a entendu. Et c'est ce qu'on fait ce soir. Ada, merci pour votre témoignage, Ada.
Et j'ai pas fini, moi.
On a beaucoup, beaucoup. Oui, vous êtes pour la grève, c'est ça, rapidement?
Oui, je suis pour la grève et j'appelle tout le monde à manifester contre Macron, en fait, tout simplement. Et contre les lois. On a noté ça entre les mains d'un seul homme.
Il paraît que les jeunes, comme vous, vont massivement.
Il était temps.
Oui. Il faut participer. Ouais,
bon.
Merci Ada, merci d'être intervenu. On a beaucoup d'appels, énormément. On a Laura qui nous appelle de la ville de Thiers, victime justement de cette agression. Précieux témoignage justement, Laura. Camilla qui nous appelle d'Aix-en-Provence. J'ai oublié, Yanis du 75, mais tout de suite c'est le Quoi de Neuf. C'est parti.
Les informés. Le Quoi de Neuf.
Le Point Neuf, comme chaque lundi, c'est avec Maître Franck Serfati. Bonsoir, mon cher maître.
Bonsoir, Adil.
Comment ça va? Vous allez bien?
Super.
À vous la parole, vous savez que, comme chaque lundi, eh bien, c'est à vous pour le billet d'humeur, l'édito du lundi dans le Quad Neuf. C'est parti.
Peut-on tout pardonner et faut-il accepter la repentance, les excuses de Monsieur Dieudonné Mbala? Alors, chacun a pu l'entendre ici et là depuis maintenant une semaine.
Oui.
Dieudonné Mbala, humoriste. D'aucuns l'appellent humoriste depuis une trentaine d'années, a présenté des excuses à la communauté juive, puisque depuis une dizaine d'années, ce comédien, je ne sais pas, prend pour cible la communauté juive et puis s'attaque de façon ouverte, totalement décomplexée, aux juifs, voire à l'État d'Israël. Alors chacun a bien évidemment son opinion, mais la liberté de penser, la liberté d'expression est inévitablement cantonnée, limitée par la loi. Et comme disaient les philosophes au XVIIIe siècle, la liberté de chacun s'arrête là où le droit ou la liberté d'autrui commence. Et je rappellerai, si vous voulez bien, sous l'angle qui est le mien, l'angle du droit, l'angle purement juridique, que Dieudonné Mbala a été condamné 26 fois. Donc, ces dérapages ne sont pas des abus de langage ou simplement l'expression d'une opinion personnelle, politique, partisane ou syndicale. En tout cas, son comportement a été sanctionné par les juridictions pénales à 26 reprises, partant de simples amendes pénales à des peines d'emprisonnement assorties d'un sursis, voire en 2022, je crois qu'il a écopé de 8 mois d'emprisonnement, donc 4 mois avec sursis. Alors, le pardon existe dans toutes les traditions, dans toutes les religions, et bien évidemment, chacun peut s'excuser et peut se repentir, pour au moins, pour autant. Pour autant, je crois que les excuses de Dieudonné Mbala seront véritablement sincères ou pourront porter un effet concret, tangible, dès lors où son comportement viendra au-delà d'une simple lettre d'excuse, hein, puisqu'il a contacté un journal israélien, pour le coup, bizarrement, Israël Magazine, pour écrire une lettre
qui a publié sa lettre,
qui l'a publiée,
présentant ses excuses. Je crois, et beaucoup pensent comme moi, au sein de la communauté juive et au-delà de la communauté juive, que cette lettre d'excuses n'est pas suffisante, mais elle doit être complétée par des actes concrets à suivre et à voir, nous espérons.
Eh bien, merci pour Maître Franck Serfati. Merci pour pour votre édito et pour ce billet d'humeur, évidemment, à faire à suivre. On vous retrouve lundi prochain sans faute.
Bonne soirée, à bientôt.
Merci, à bientôt. Tout de suite, au revoir. Pub. Et on se retrouve avec Laura de Thiers. Pardonnez-moi, Yanis du 75, mais je vais prendre Laura qui est justement de Thiers, qui nous appelle de la ville justement où a été agressé cet adolescent. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Et Les Informés, c'est avec notre invité Jean-Pierre Colombiès, ancien commandant de la police, mais également le porte-parole des policiers indépendants. Nous sommes avec Laura, tout de suite, 18h41, si vous venez de nous retrouver. Merci, d'ores et déjà, vous savez, vous êtes de plus en plus nombreux de nous suivre chaque soir dans Les Informés. Et ça, vous savez quoi? Ça nous réjouit. Laura, bonsoir Laura. Et ensuite, j'irai voir Farid de Saint-Etienne et Yanis de Paris. Laura, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Laura?
Je suis infirmière.
Infirmière, vous êtes justement de Thiers, la ville où cet ado de 16 ans a été poignardé devant un lycée.
Oui, ouais, exactement. En fait, ce matin, en tournée, hein, je commence vers 6h30 et autour de 8h30, 9h moins le quart, en fait, j'allais prendre une rue et elle était complètement fermée. Donc, je me suis dit, oh, il doit y avoir un accident.
donc quelques heures à la suite, j'apprends que c'est un gamin devant son lycée, donc c'est un gamin de première qui est en STMG, puisque vu que je suis dans la ville, forcément, je soigne d'autres gamins du lycée qui ont, et donc du coup il me raconte un petit peu et paraît-il que c'est un gamin qui avait absolument rien à voir. Oui. Il était bon élève et parce que il habite tel quartier qui donc ce sont fâchés avec un autre quartier et donc vu qu'il habite ce quartier, il s'est tué devant son lycée. Ben, excusez-moi, mais là, il y a vraiment quelque chose qui ne va plus du tout. Mais Jean-Pierre. Vraiment plus.
Oui, non, mais
c'est là, moi, je suis remplie d'effroi. Sincèrement, en tous les cas, mon cœur pleure, quoi. C'est plus possible. Bon. Et c'est pas un cas isolé, hein, parce que moi, je suis infirmière sur Thiès. Et c'est peut-être mon troisième ou quatrième gamin que je soigne parce qu'il a pris des coups de couteau. Sauf que là, c'est médiatisé parce que le gamin est mort. Mais en fait, c'est monnaie courante. Ça devient monnaie courante.
Alarmez-vous,
là, il y a vraiment un vrai problème.
Alors justement, attendez. Ce que vous dites est tellement important que je voudrais entendre Jean-Pierre Colombiès, qui lui, elle a suffisamment l'expérience pour nous dire comment il voit ce cycle de société qui est en train d'évoluer. Vous avez entendu le témoignage de Laura, elle vous dit, cri d'alarme. C'est de plus en plus violent.
Oui, tout à fait. Mais c'est malheureusement, Laura, infirmière que je salue, je rends hommage aussi à son job qui est particulièrement ingrat et impacté par plein de choses. Et j'espère qu'elle fera connaître son mécontentement pas plus tard que jeudi prochain.
Mais c'est lié,
parce qu'il y a une déliquescence totale du contrôle de la rue et de la société. On en arrive justement à voir des actes de cette gravité, un meurtre entre enfants, entre adolescents, c'est inentendable, c'est pas acceptable, tout simplement. Et on assiste trop souvent, on en parlait hors antenne, à des règlements de compte entre bandes, de quartier ou de ville, de l'une à l'autre, et qui se soldent par des agressions, mais ultra violentes, dans des établissements scolaires, dans la rue, entre gamins, qui n'hésitent pas à sortir des lames et à poignarder des gamins de leur âge.
Laura ?
Oui.
Vous regrettez, évidemment,
Moi, je suis remplie d'effroi de voir qu'on est capable de prendre à 16 ans un couteau et aller poignarder un gamin du même âge. Sincèrement, mais là, je sais pas, mais où allons-nous ? Là, c'est plus possible. Et c'est ce que je disais, du fait que je sois infirmière, j'ai soigné. En fait, je crois qu'à peu près tous les mois, j'ai un gamin qui a pris des coups de couteau. Oui, sauf que ça. Là, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est médiatisé parce que le gamin est mort. Les autres, on n'en parle pas.
Tout à fait. Il y a une banalisation d'une forme d'ensauvagement qui est absolument inacceptable et qui est le fruit aussi d'une absence totale de représentation de l'État partout, dans tous les quartiers, dans toutes les villes. Donc c'est un vrai problème.
Et vous vous rendez compte, en fait, des dégâts que tout ça va
C'est une catastrophe, oui. Il y a une famille qui est endeuillée et une autre famille qui va retrouver son gamin en prison dans peu de temps.
Et les camarades d'école ?
Oui, complètement, oui, tout à fait, oui. Oui, c'est un tout,
comment
c'est un traumatisme global.
Comment on continue à aller à l'école paisiblement, sachant qu'il y a un gamin, on passe tous les jours sur l'endroit où le môme est mort, quoi, en fait. Comment on fait pour continuer à aller à l'école comme ça ? Excusez-moi, mais sincèrement, moi, je suis choquée.
On comprend tout à fait votre sentiment, il n'y a pas de souci. C'est partagé d'ailleurs.
Laura, c'est inquiétant, effectivement. Vous allez manifester jeudi prochain, Laura ?
Non, parce que je suis infirmière libérale et si jamais je ne travaille pas, mes patients ils meurent. Donc non.
Vous avez raison. Désolé. Cette conscience professionnelle.
On est tenu en tant qu'infirmière, de toute façon, même quand j'étais à l'hôpital, on mettait juste grève sur notre blouse, donc ça n'avait pas du tout de poids, mais nous,
tout
ça
fait exact,
au moins 15 ou 20 ans qu'on dit un jour on ne pourra plus vous soigner. Et ce jour-là, il est arrivé. Donc quand on voit que il y a plusieurs plaintes au niveau des hôpitaux parce que il y a un patient qui arrive en état d'urgence absolue et qu'on le laisse traîner 18h et au bout de 19h il meurt, je suis désolée mais il n'y a plus rien qui va, franchement, et pourtant je suis quand même
cri d'alarme.
Aujourd'hui, franchement, j'ai le cœur qui saigne. Je pense constamment à cette famille, à tous ces gamins qui vont aller à l'école demain,
le cri d'alarme, vous avez raison.
Devant un lycée, ils vont passer sur le chemin, le gamin s'est fait tuer, mais c'est grave. Franchement, c'est très très grave. Sur ce, je vais arrêter parce que je vais mettre à pleurer. Je vous souhaite une excellente soirée.
Ne pleurez pas. Et merci.
J'espère sincèrement qu'il va y avoir des solutions, c'est plus possible.
Et merci pour votre fidélité. Continuez de nous écouter. Merci. À bientôt. Merci. Tiens, on va aller à Saint-Étienne. où je vais accueillir, paraît-il, quelqu'un qui est pour le coup révolté. Farid, bonsoir.
Oui, bonsoir, comment allez-vous?
Très bien, vous faites quoi dans la vie, Farid?
Moi, je suis l'ancien footballeur à la retraite.
Ah, les anciens footballeurs à la retraite. Ouais.
Voilà,
c'est beau, ça.
Je prends du bon temps. Comme...
Il paraît que vous êtes révolté, mon cher Farid.
Ben, moi, ce qui me désole, je suis père de famille quand même, mais ce qui me désole, c'est quand je rentre le soir, il est 2h du matin, je vois des gamins de 12 ans avec des mecs de 30 ans, ça va pas. Ça va... Moi, quand j'étais jeune, à 12 ans, j'étais chez moi. 13 ans, j'étais chez moi.
Bah, à 12 ans, oui. Vous êtes à la maison.
Et comme elle a dit, la femme juste avant nous, là.
Laura.
À Saint-Étienne, les coups de couteau, c'est normal. C'est rien, un coup de couteau à Saint-Étienne.
On banalise.
On n'en parle pas tant que le mec n'est pas mort. À Saint-Étienne, il y a tous les jours un fait divers, coup de couteau.
Jean-Pierre, Colombiès.
Oui, non, mais bonsoir Farid. Ce qu'il a dit est fondamental. Il voit à 2h du matin des gosses.
Il parle de deux choses.
Oui. Il parle de la banalité.
Voilà, absolument. Et les gamins de 12 ans qui fréquentent les trentenaires.
Tout à fait.
Et ce que je veux dire, les parents, moi je les connais, on se connaît tous, ils sont dépassés. Ils commandent plus.
Ils sont dépassés.
Mais c'est ce que. Bon, là je me répète, mais on est là pour discuter. On a judiciarisé la vie familiale. D'accord? On a considéré qu'un parent, papa ou maman, qui réprimandait son enfant, c'était pas bien. Voilà. On a culpabilisé les parents dès lors qu'on grondait un peu trop fort les enfants, et or pire, si on leur mettait une claque. On a incité indirectement des gamins à se plaindre de ça. Mais en même temps, on crée des monstres en faisant ça. On crée des monstres parce qu'ils se sont convaincus d'être dans l'impunité et le tout permis. C'est des enfants rois. C'est des enfants rois. Et des enfants qui peuvent tuer. Et ça, c'est catastrophique.
Farid?
Allô?
Oui.
Oui.
Vous allez manifester jeudi prochain?
Non, oui, je vais manifester, je vais.
Vous êtes en colère comme beaucoup?
Ouais, je suis un peu. Ah, je suis impuissant. Bah, je peux rien faire, moi, je suis impuissant. Franchement. Bon. C'est ces jeunes perdus, ça me fait. Ça me fait. Pour ce petit qui s'est fait tuer, là, j'ai. Comme elle a dit, là, Laura. Je vais pas dire que j'ai envie de pleurer, mais moi je la comprends.
Bon. Bah écoutez, effectivement, on continue d'en parler au 0153 48 3000 18h50. C'est aussi l'heure, vous savez quoi, de retrouver le face-à-face.
Les informés. Le face-à-face.
Et je vais accueillir Yanis. Yanis, je vous ai pas oublié, Yanis. Hein. Le face-à-face est aussi avec Mehdi Jaziri. Tiens, un jeune journaliste, justement. Jeune. Beaucoup de jeunes s'expriment sur notre antenne. Hein.
En plus, bonsoir.
Comment ça va?
Ça va et vous? Ça fait longtemps. Hein. Bonne année, plein de bonheur.
Ben
plein
d'auditeurs. Chez une radio concurrente, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Mais
vous
oui.
avez fait votre choix. Hein.
Mais oui, bah totalement.
Vous avez fait votre choix.
Mais oui.
Donc vous boudez Beurre FM.
Mais non, je boude pas Beurre FM. Mettez des clochettes, tiens. J'ai pas oublié les règles ici.
Allez, j'accueille Yanis et je vous donne la parole justement
sur
le règlement de compte entre bandes de Rix. Yanis, bonsoir Yanis.
Allô?
Bonsoir Yanis, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous êtes de Paris?
Moi, je travaille dans le transport.
Dans le transport. Bienvenue, on vous écoute alors.
Ouais. Nice. Bonsoir, Selem, Shalom. Moi, j'aimerais bien m'adresser au commandant de police.
Ah ben, il est là. Ben, il vous écoute, vous savez. Il vous écoute. Hein, il est très attentif. Hein. Il aime discuter avec les auditeurs. Bien. Donc, ça tombe bien. Il est ouvert.
Ouais. Oui, moi j'aimerais bien. Moi j'aimerais bien parler ta voix dans mes potes. Moi, je suis d'origine algérienne. J'aimerais bien nous dire les problèmes qui se passent ici sur la région parisienne, pratiquement sur la France. Bon, les problèmes, il faut dire, c'est pas des Chinois, c'est pas des Pakistanais, c'est pas question de racisme. Il faut dire les choses pour régler le problème. Il faut parler. Bon, moi j'ai vécu dans une cité, j'étais choqué. Choqué. Franchement, je suis pas grandi comme ça, j'ai grandi avec la gendarmerie, la police algérienne. C'est des gens, on rigole pas avec les voyous. Un voyou, dès que l'on bat au commissariat, une fois, deux fois, troisième fois, la prison, ces gens-là, il faut les condamner, pas pour que tout le monde parle plus d'eux. C'est des gens, comme on dit, moi j'ai compris de ma vie, un violent, il faut lui répondre par la violence. Faut pas lui répondre gentiment, lui dire comment on dit ici maintenant. Ils disent oui, c'est pas la faute des parents, c'est pas que son. Après, il y en a qui disent ouais, c'est de racisme, tout ça. Non, c'est pas comme ça qu'on va régler les problèmes. Il y en a dans des cités, Je connais des cités, des voyous qui dérangent tout le monde, qui laissent pas les gens dormir, qui scotchent les portes, qui laissent pas les familles, qui dérangent tout le monde. C'est des familles qui sont connues dans les cités. C'est des familles. Il y a telle famille qui vend la drogue, que leurs parents sont complices. C'est fou. Il faut attaquer. Bon, moi, si j'avais le pouvoir, ces gens-là, ils sont expulsés de la HLM. On va faire des enquêtes bien ciblées, bien. Ces gens-là, il faut les expulser. Leurs enfants et leurs parents, il faut les mettre ailleurs. Il faut trouver une solution pour ces gens-là. Bon, la deuxième, parlons des enfants-là qui vont à l'école, qui font des bêtises, qu'on laisse comme ça. Quelqu'un, tu remets ton fils, après t'appelleront, ils diront ton fils, il s'est fait exécuter par quelqu'un, ou quelqu'un lui a mis un couteau, je sais pas comment dire. Moi, ça m'est arrivé, ça t'appelle. Ça m'est arrivé une fois, j'avais un enfant, il va à l'école, il y avait une famille, ils ont 4 enfants. Ces enfants-là, ils ont fait la mafia dans l'école. Ils ont fait pratiquement, ils tapent tout le monde, c'est des gens. Moi, une fois, j'ai parlé, mon fils, il m'a dit, ouais, telle famille et tout, ils ont fait ça à l'école, tout ça. Bon. J'ai dit, ils t'ont fait quelque chose? Il m'a dit non. Il m'a dit non. J'ai dit, un jour qu'il parle avec, je parle à mon fils, j'ai dit, un jour qu'il parle avec, tu me dis à moi. Tu me dis. Et ben, une fois, j'ai fait mon fils dans la cour. J'ai dit, voilà, maîtresse.
Mais quand vous interpellez le commandant, qu'est-ce que vous voulez lui dire?
Attends, je vais revenir à...
Alors, attendez, c'est moi qui vais vous dire d'attendre, c'est pourquoi? Parce que je lance la pub et on se retrouve tout de suite après Yanis. A tout de suite, 01 53 48 3000.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, et Les Informés, présentés par Adil Farkan.
Les Informés, c'est avec Jean-Pierre Colombiès. Les Informés, c'est aussi avec, justement, Mehdi Jaziri, qui est le président de l'Alliance...
Du Savoir. Je vous expliquerai. Bah, en fait, en gros, c'est une entreprise que je lance. Et en fait, on organise des conférences. On va aussi faire des maraudes. On va distribuer de la nourriture à des pauvres. On va leur donner des tracts avec des numéros de téléphone, par exemple, pour les femmes appelées en cas d'urgence. On va faire des vidéos sur Instagram, on fait de la communication
bien, bravo,
avec tout le monde.
Bravo,
on fait plein de choses, quoi.
Bravo.
Et on vous aime.
Bravo, un jeune qui bouge, qui ne cesse de bouger. Yanis, oui. Posez votre question, Yanis, parce qu'on a beaucoup d'appels.
Revenons, juste à
ça. Non, posez-vous. Non, Yanis, on n'a pas le temps de développer. Posez votre question au commandant, s'il vous plaît.
Ouais, je pose une question au commandant.
Rapide,
Comment que ça se fait? Vous lâchez vos éléments dans les cités, on les insulte. On lui dit nique ta mère, le policier.
Faisons attention à l'expression.
J'ai pas compris la question.
Ouais. C'est quoi la question?
Ça se dit partout. Moi, c'est une policière qui me l'avait dit devant mes yeux. Ils l'ont insulté.
Mais c'est quoi sa question? Il a pas compris, Jean-Pierre. Il a pas compris.
En gros, comment ça se fait qu'on laisse faire ça, quoi.
Bon, il vous répond, Yanis. Yanis, c'est ça. Yanis, il vous répond, Jean-Pierre Colombès, tout de suite en direct.
Très rapidement. Malheureusement, il y a une telle dégradation de la situation que même lorsque les policiers sont insultés, ils préfèrent tourner le dos, partir, parce que s'ils doivent répondre et si ça part si ça dégénère, c'est sur, beaucoup de policiers craignent d'être filmés et de se voir responsabilisés sur une réponse qui apparaîtrait trop violente.
Voilà, Jean-Pierre. Merci pour votre appel, Jean-Pierre, et merci pour votre intervention.
C'est pas Jean-Pierre.
Yanis. Merci, Yanis, hein. Jamila de Toulon. Jamila de Toulon, bonsoir Jamila.
Oui, bonsoir, vous m'entendez?
Très bien, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Jamila?
Alors moi je suis en reconversion professionnelle, j'étais éducatrice.
Bienvenue à vous, on vous écoute, allons-y. Alors, dites-nous tout.
Moi je voulais intervenir par rapport aux jeunes qui deviennent complètement sauvages. Déjà, vraiment une grande pensée pour les familles et toutes mes condoléances, parce que c'est vraiment triste ce qui se passe.
Oui.
Malheureusement, c'est pas toujours des mauvais garçons. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis maman de 3 enfants, donc j'ai un grand garçon de 26 ans. Alhamdoulilah, il a bien tourné.
Oui.
Et son petit frère derrière, qui a eu 15 ans au mois de novembre, il a eu la même éducation.
Oui.
On traîne pas dehors, on est derrière nos enfants. Nous, on a grandi dans les cités, leur papa et moi. Du coup, eux, on a essayé de s'éloigner de tout ça. Et pour la suite à une séparation, moi, j'ai déménagé à Toulon. Mes enfants, en fait, qui avaient toujours connu école privée catholique et tout, on s'est retrouvés dans un quartier chier avec les palmiers. Et là, déjà, je me suis dit, aïe, ça va pas aller. En fait, mon fils, en 6 mois, il est devenu un voyou. Voyou, c'est-à-dire qu'il est arrivé, il a fallu tout de suite qu'il apprenne à se défendre, à se battre.
Oui.
Parisien. Attention, je vois aucun racisme. Un enfant algérien, majorité à Toulon, c'est des Tunisiens. Il a fallu qu'il s'affirme, qu'il bat jusqu'à marcher avec un couteau sur lui, quoi. Marcher avec un couteau sur lui parce que les autres, ils avaient des tournevis. Si on dit on va t'attraper, on va te planter. Et,
c'est devenu voilà, courant, Jean-Pierre.
Oui, ben, le prénom de madame, c'est
Djamila.
De Djamila, l'expérience de Djamila, elle est significative. Si son fils ne s'agrège pas à une bande ou à un gang, il est condamné à subir la dictature des autres, tout simplement. C'est grosso modo ce que je comprends. C'est-à-dire qu'il est
exactement ça, c'est-à-dire qu'il s'est fait taper dessus une première fois. En plus, il a été filmé.
Voilà.
Par un gamin, mais enfin moi j'ai vu la vidéo. C'est-à-dire que mon fils, voilà, il se défendait verbalement. Le gamin, il est venu même âge, hein, ils avaient 14 ans. Chaîné de coups de poing, mon fils a fait semblant de s'évanouir. Ça a été son mode de sécurité. Ce jour-là, il s'est dit, il faut que je me batte, il faut que je me fasse respecter. Et trois gardes à vue à l'âge de 14 ans, c'est incroyable, mais vrai.
Bon.
Les autres, ils jettent des détails sur la police.
Oui, mais c'est vrai, c'est préoccupant. Ça préoccupe. Non, mais c'est vrai. Djamila, merci
de. Alors, c'est un gamin, on était ouais. derrière, hein, s'il ne traînait pas dans la rue ni rien. Alors, moi, je l'ai envoyé sauvegarde, j'ai écrit au juge parce qu'on a eu contrôle judiciaire. Alors, dans le contrôle judiciaire, il doit rentrer chez lui à 21h30. Vous imaginez ce que déjà
qu'est-ce qui reste comme alternative, j'ai envie de dire.
On m'a proposé la MO, des choses comme ça. J'ai dit non, c'est le meilleur éducateur. Il faut la meilleure rupture à tout ça.
Oui.
Moi, je l'ai envoyé en Algérie.
Non, mais est-ce que c'est la solution? Franchement, entre nous, Djamila.
Sincèrement, ça a été la meilleure solution pour lui sauver la vie. Alors après, il est pas seul, il est avec son papa. Hein.
Oui.
En fait, il devait pas aller en Algérie. J'ai demandé au papa de prendre le relais en urgence. Bon, au contrôle judiciaire, il a fallu demander l'autorisation au juge.
Ah bah oui.
Le papa prenne le relais.
Si ça peut le servir, en fait, tant mieux. Mais je suis pas sûr. Par expérience, je suis pas sûr. Quand on renvoie effectivement au pays d'origine, en général, ils le vivent très mal.
Après, c'est pas un renvoi définitif. Hein. Non, mais c'est-à-dire qu'il a fallu demander autorisation, parce que comme il y a un contrôle judiciaire, il ne faut pas...
Qu'est-ce que ça prouve, Jean-Pierre Colombès?
Excusez-moi, mais ça prouve à quel point le système judiciaire-éducatif français est en échec, tout simplement. Enfin, entendre dire qu'on est obligé d'envoyer un gamin à l'étranger pour être pris en main par la famille, j'imagine, ça prouve qu'on n'a plus aucune solution autour de soi, et que c'est les gangs et les bandes qui gagnent.
Il dit, mais il va aller au foyer, ça va être l'école de la rue. Voilà. Là, c'est son papa.
C'est là où ça va pas.
Son père est apte à le prendre.
Et merci l'État qui a renoncé à toute autorité.
Voilà. Merci Djamila pour votre intervention.
Et tenez-nous vraiment un grand soutien aux parents et courage aussi à tous les parents où on est derrière nos enfants, on peut pas non plus les
aider. Exactement.
Moi, j'en vois à faire qui traînent, mais on est derrière nos enfants quand même. On n'est pas des... Un juge, elle me disait en Algérie, je m'attendais, l'Algérie, c'est pas le tiers-monde, hein. Il y a des écoles, il y a des ingénieurs qui sortent de l'Algérie, on n'est pas...
C'est pas ce qu'on a dit, hein.
Non, mais je parle à l'État.
Ah, d'accord.
Tenez-nous au courant, ma chère Djamila. Merci.
Normalement, il revient cet été,
bon.
Et je lui dis...
Tenez-nous au courant. D'accord.
Je le ferai.
Merci à vous, Djamila.
Merci pour votre émission et grand soutien aux parents.
Mais merci à vous surtout. C'est vous qui faites l'émission. Merci. Mehdi Jaziri, on vous a pas entendu.
Ah bah non, du coup. Moi, j'aimerais répondre à tout ce que j'ai entendu. En fait, moi, ce que j'entends, je l'entends depuis des années, en vérité. Hein. Enfin, je suis désolé, hein, mais c'est pas la première fois qu'on entend qu'un gamin
s'est fait prendre. Depuis des années, c'est-à-dire
ça fait des années qu'on entend qu'il y a de la défiance envers la police, que les jeunes sont de plus en plus violents, que les jeunes respectent de moins en moins leur institution. Ça fait des années qu'on entend les mêmes choses finalement. Je suis désolé, hein, mais, le constat est déjà là depuis des années. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Moi, en fait, il y a un truc qui m'aberre, c'est que on ne parle pas de la culture urbaine aujourd'hui qui est en train de faire un désastre dans la tête des jeunes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je parle de la culture urbaine, je pense au rap. Je suis désolé, hein, je parais très conservateur. Mais le rap, c'est je pense que
vous allez attirer toutes les foudres.
Je m'en fiche. Je m'en fiche et je, vous dis, je vais vous dire un truc.
Bah, y compris moi, il y a du bon rap quand même. Il n'y a pas que du mauvais rap, il y a du bon rap. Moi-même, j'ai été bercé par le rap.
Oui, bah, vous avez été bercé par le rap, mais vous êtes pas parti en cacahuète. Sauf que le problème, je vais vous dire un truc, c'est qu'un garçon.
C'est du bon, moi. Vous savez, grâce à Akhenaton, Ayam, voilà, mais
ça, c'était notre époque. Aujourd'hui, on va vous apprendre à vendre de la drogue. Mais écoutez, aujourd'hui, on va vous apprendre à vendre de la drogue, à taper vos copains et à rendre l'argent, sinon on vous bute. Voilà, c'est très simple. Et ça, on le dit de manière très explicite. On enveloppe tout ça dans un clip à 10 000 euros. Et après, ça fait des millions de vues. Et si vous voulez, les jeunes, après, ils disent, oh, bah, génial, je vais faire comme eux parce que c'est top. Et les filles derrière, attention, parce qu'il y a aussi un autre truc, c'est un cercle vicieux. Parce que les filles, elles trouvent ça magnifique. Oh, un bonhomme, un mâle alpha. Vous savez, ce côté martial qui a été abandonné avec les années. Et ben, en fait, on le retrouve ici maintenant. C'est-à-dire que le jeune, celui qui va tabasser, celui qui va aller à la salle, pousser, avoir des gros bras, et celui qui va aller insulter sans employer les mêmes mots que Yanis, mais vous savez très bien de quelle insulte je parle. Et bah c'est celui qui va être le plus respecté. On a l'impression de vivre dans une prison à ciel ouvert. Et moi, je vais vous dire quelque chose. L'État ne pourra jamais se faire respecter tant qu'il y aura ce genre de culture qui va tourner en France. Et autrement,
ça fait du bien de l'entendre.
Non, mais on entend sur tous les plateaux.
Oui, parce qu'il est jeune et ça me fait plaisir d'entendre.
Il a 20 ans, 22 ans.
Oui, 20 ans.
20 ans. Oui. Donc 20 ans, il est très très jeune.
J'aimerais juste aussi rajouter quelque chose. On entend sur beaucoup de plateaux. Oh, mais vous voyez, cette culture, elle est africaine. Elle est, elle vient du Moyen-Orient. Mais excusez-moi. Est-ce qu'on a déjà vu des bédouins marcher en gang avec du rap dans les oreilles et en Lacoste TN?
C'est totalement américain.
Et si je veux faire un peu d'histoire, ça a commencé quand? On avait des, non mais c'est très rapidement, quand on avait des ghettos vous en France qui se sont assimilés aux ghettos américains. Le rap, ça vient des ghettos africains qui se sont après assimilés aux ghettos français.
Moi, j'aime pas les généralités.
Excusez-moi, mais en fait, si vous voulez, c'est factuel. C'est-à-dire que aller dans un quartier,
faut pas mettre tout le monde dans le même sac.
Je mets pas tout le monde dans le même sac. Je dis pas que tous les jeunes du quartier sont des idolâtres du rap. Je dis que le rap a une extrême influence sur certains jeunes de quartier, mais et ces mêmes jeunes de quartier qui vont foutre le bordel.
Et ça n'a pas provoqué une génération de détraqués.
C'est qu'un point, parce que dans un problème comme celui-ci, il n'y a pas de problème.
Regardez, moi j'ai grandi avec Joey Starr,
oui,
par exemple.
Oui.
Ça n'a pas fait une génération de détraqués.
Non, mais si je peux me permettre.
Jean-Pierre Colombier,
ça en a fait quand même pas mal.
Si je peux me permettre, je peux apporter une petite nuance peut-être.
Oui.
Je suis d'accord avec lui, je dirais plutôt que c'est le dévoiement du rap, le glissement du rap qui est passé d'un discours social, d'une dénonciation.
Ah là oui, là on arrive à quelque chose.
D'un état d'esprit.
Là peut-être on arrive à quelque chose.
Avec quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec lui, où on voit quoi? Des filles trois quarts à poil, des mecs qui ont des bagouzes à peu près dans chaque main, qui chantent la moulaga, donc l'argent facile. Il y a un culte de l'argent facile, de la réussite sans effort, qui fait que il vaut mieux finalement ou dealer ou être influenceur, parce que c'est très tendance, plutôt que d'aller bosser.
Bien sûr.
Et qui fait qu'on ne respecte plus rien en dehors de cet ersatz de valeur.
Et quand on va voir ces mêmes jeunes et qu'on leur dit, mais allez travailler, la culture du mérite, justement, on nous colle l'étiquette du droit tard, du service, et on nous dit, écoutez, au bout d'un moment, toi, tu vas aller dans le 16e, tu vas te faire foutre, excusez-moi l'expression, et moi, je vais rester dans mon quartier et je vais aller faire mon bif facile. Malheureusement, je grossis le trait, on est obligé de grossir le trait quand on parle d'une population comme ça. En sociologie, on grossit toujours le trait. C'est indéniable. Donc, je suis désolé de faire une généralité.
Je me retiens d'aller l'embrasser parce qu'il a tout à fait raison.
Cependant, j'ajouterais aussi que l'État.
Ça fait plaisir à Jean-Pierre, ça, Colombier.
J'ajouterais que l'État aussi, sous pression de beaucoup de lobbies, aujourd'hui ne peut pas avoir une réelle autorité sur ces jeunes. Pourquoi? Comme vous l'avez dit, parce que derrière, on va dire, oh, mais l'État est violent, l'État est répressif, l'État. Mais au bout d'un moment, faut savoir ce qu'on veut. On veut la sécurité, on veut la paix, on veut l'éducation.
Est-ce trop tard? Est-ce qu'on est en train d'assister à des mineurs, des adolescents qui sont de plus en plus violents?
Non, parce que ces jeunes qui sont violents, justement, excusez-moi, je vais être cru dans mes propos. Ces jeunes qui sont violents, au bout d'un moment, je vais pas dire qu'il faut être violent avec eux parce que c'est contre-productif. Je vais dire qu'il faut être ferme avec eux. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ces jeunes-là, il faut les enfermer. Ces jeunes-là, il faut leur montrer une bonne voie. Ces jeunes-là, il faut leur montrer une droiture.
Non, mais
que ce soit à travers l'école, pour commencer. Tout se fait à l'école. Que ce soit en même temps.
Non, tout se fait pas à l'école.
Non, mais l'école, à l'école. Excusez-moi. Tout commence à l'école. Parce qu'en soi, l'éducation des parents,
tout ne commence pas à l'école.
L'éducation des parents se fait
je crois qu'il a bien précisé tout à l'heure, Jean-Pierre Colombier.
À peu près.
Faut pas confondre l'éducation parentale, l'apprentissage du savoir à l'école, qui a une mission particulière
et d'enseignement. Savoir-vivre.
Oui, mais c'est pas à l'école de l'enseigner, ça. À l'époque, oui, c'est vrai, mais moi, je parle d'un temps que les moins de 50 ans peuvent pas
connaître. Mais c'est ça le problème. On parle de ça comme d'un temps révolu. Mais c'est ça le problème. Excusez-moi, où est-ce qu'ils sont passés les cours d'éducation civique? On en a qu'un par semaine.
Ils ont disparu.
On en a qu'un par semaine. Éducation civique, c'est la chose la plus importante.
Excusez-moi, il y a des cours qui sont basiques.
Du vivre ensemble.
On nous bassine avec des mathématiques à tout va, avec des français, avec du français à tout va. C'est très important. Je dis pas que c'est pas important, mais je dis que l'éducation civique.
À vous écouter, Mehdi Jezeri, parler, tout va mal.
Je dis pas que tout va mal.
Les gamins, c'est des flingués.
En tout cas, ça va pas bien.
Non. Ça, c'est les rabaisser, c'est justement les pousser à rester flingués. Ils sont pas flingués. Je dis qu'une partie qui gangrène d'autres élèves sont complètement flingués, eux, oui. Mais
pollue l'environnement.
Et pollue l'environnement. Voilà. Mais je pense que le fond à retenir de tout ça, c'est que justement, il faut que l'école puisse inculquer de vraies valeurs, qu'on puisse apprendre aux jeunes à aimer ces valeurs de la République. Excusez-moi, mais aussi autre chose. Allez voir le nombre de jeunes qui connaissent la Marseillaise.
Oui, il y en a très peu.
Très peu.
Quoique, on a entendu la Marseillaise parler de l'école qui était partie à la Coupe du Monde.
Mais.
On se souvient, j'étais là.
Il n'y en a pas beaucoup qui la connaissent vraiment bien. Il n'y en a pas beaucoup qui sont attachés
aux valeurs. Et des gamins des quartiers populaires.
Voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui sont attachés à la valeur de la République. Il n'y en a pas beaucoup qui sont attachés aux valeurs du drapeau. Excusez-moi, pour certains, c'est plus cool de mettre un drapeau LGBT dans sa chambre qu'un drapeau français. Pour d'autres, c'est plus cool de mettre un drapeau de l'Algérie qu'un drapeau français. Et encore pour d'autres, ils mettent un drapeau américain. Alors là, on est complètement perdu. Moi, je pense qu'au bout d'un moment, ce qu'il faut, c'est resserrer la nation. Montrer justement qu'il y a des valeurs, qu'on doit vivre ensemble. Et justement, montrer aussi que la personne la plus forte, la plus intelligente, et la plus respectable, c'est pas celle qui va foutre la merde, c'est celle qui va savoir imposer son respect à travers son élégance et sa bonne attitude. Et ça, on l'a complètement perdu. En même temps qu'on a perdu, aussi sociologiquement parlant, la religion. Voilà.
Alors là, il faut qu'il soit au ministère de l'Éducation nationale. Je vote pour lui, sans problème. Parce que justement, on assiste, et là, il l'a dit, il a repris puisqu'on avait dit avant son arrivée, c'est-à-dire l'absence de réponse pénale crédible et audible. C'est-à-dire qu'un enfant, moi j'appelle ça un voyou, hein, un enfant c'est trop facile, un gamin de 16 ans c'est plus vraiment un enfant. Hein.
Non,
ce gamin-là qui a tué un autre enfant, je suis désolé, il ne faut pas qu'il s'en sorte. Et il faut que la réponse pénale qui va s'appliquer à lui, elle soit ferme.
Bien sûr.
Et qu'elle a, pour le coup, elle a une valeur éducative pour tous les petits rigolos qui étaient autour de lui et qui ont filmé, peut-être.
19h10, messieurs. Mehdi Jezeri, justement, Jean-Pierre Colombier, je voudrais qu'on parle de cette réforme des retraites, puisqu'il faut qu'on avance. Vous savez quoi? Plusieurs syndicats visent le million et demi, jeudi, la France bloquée. Vous savez quoi? J'ai tout entendu. Les pétroliers, qui veulent s'emparer, évidemment, de l'essence.
L'électricité.
L'énergie. L'énergie. Oui. Ils sont prêts à couper l'électricité. Mmh. Le personnel soignant prêt aussi à l'arrêt. Mmh. Bref, à quoi peut-on s'attendre ce jeudi? Blocage de la France?
Je peux répondre?
Oui, allez-y. Alors Jean-Pierre.
Moi, je suis sidéré. Non, mais je ne veux pas lui spolier la parole non plus. Hein, mais moi, je suis assez sidéré d'entendre que tous ceux qui ont appelé, je parle des syndicats, des partis politiques, à voter Macron il y a moins d'un an, se révolte aujourd'hui contre lui, contre cette réforme des retraites, qu'il avait inscrite noir sur blanc dans son programme. Alors après, par démagogie anti-Le Pen, moi je veux bien tout entendre, tout ça, enfin je veux bien tout entendre. Non, pas vraiment, parce que au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Quand on vote et qu'on fait élire quelqu'un qui portait massivement la réforme, la mère des réformes, hein, quelque part, parce que c'est la réforme des réformes pour Emmanuel Macron, appelé au sursaut populaire, je dis, ça aurait été bien qu'il ait eu lieu il y a un an. Et comme je l'ai dit ici, même sur ce plateau, si Marine Le Pen avait été élue, là je fais pas de l'entrisme pour le Rassemblement National, je dis que quelque part, ça aurait mis une claque démocratique à tous ces gens, ce personnel politique qui vit confortablement sur nos deniers, qui ne se remet jamais en perspective, et par rapport au fait tragique qui vient de se passer, il y a une responsabilité aussi qui doit se rattacher à tous ces démagos de plus ou moins de partis centristes et de gauche qui ont lutté contre l'État régalien et l'État fort qu'on a évoqué et qui a souvent été dénoncé par ceux-là même qui aujourd'hui demande à ce que la population aille manifester massivement dans les rues. Il y a une forme d'incohérence et d'hystérie même par rapport à ce débat politique. Cela dit, j'espère qu'il y aura quand même beaucoup de monde le 19 janvier, parce que le pouvoir macronien, c'est quand même quelque chose d'assez hystérique.
Mais dis, Jezeri, justement, je voudrais vous entendre, y compris, vous savez quoi, cette jeunesse qui veut s'emparer justement aussi à sa manière, jeudi prochain, de cette manifestation.
Moi, j'aimerais juste
de cette mobilisation.
Prendre une citation de Marine Tondelier, qui est une écolo.
Laquelle?
Pardon?
Laquelle?
L'Assemblée nationale, ça va être une ZAD. C'est juste représentatif de tout ce qui se passe en ce moment. C'est-à-dire qu'en fait, l'opposition aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Parce qu'en fait, c'est bien de parler de la réforme des retraites. Vous savez, la réforme de retraite, aujourd'hui, il faut demander aux Français qu'est-ce qu'ils en savent. Parce que c'est quelque chose de très compliqué. Je veux dire, même des économistes, entre eux, quand ils débattent, ils se cassent le cerveau.
Absolument.
Donc en fait, si vous voulez, ça fait des années et des années qu'on débat là-dessus. Moi, je vais vous dire quelque chose.
Dites-nous.
La réforme des retraites a de grandes chances de passer, pour la simple et bonne raison que il y a
les
déjà...
Les LR la
voulaient. Donc entre les LR et
Renaissance,
ça va passer. Voilà.
Pas besoin du 49.3.
Non.
Pas besoin. Non. Enfin. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui peut se passer. Mais
oui, à moins qu'en interne, il y ait des retournements.
Mais ça, c'est très peu probable. Donc en vérité, pas forcément besoin du 49-3. Donc en fait, le truc, c'est que on a l'impression que toute cette mobilisation, c'est pour que la gauche dise un peu, voilà, j'existe. Et tout le monde sait que ça va passer. Enfin, je veux dire, excusez-moi, ça fait des mois qu'on sait que ça va passer. Les LR, ils l'attendaient. Et entre les LR et Renaissance, c'est bon, c'est bouclé. Et dans tous les cas, qu'est-ce qu'il y a sinon? Le 49.3. Et le souci, là, en fait, si vous voulez, c'est que les Français sont convaincus qu'aller bloquer le pays, qu'aller faire la grève, ça va changer les choses.
Ça dépend du nombre de manifestants jeudi. Si on a 3 millions de personnes jeudi,
ça
dans
va
la
quand
rue,
même emmerder les Français.
À 3 millions, je pense que ça va faire plier quand même le gouvernement.
Il y a des Français qui veulent travailler, ils vont pas trouver de pétrole. Il y a des Français qui vont vouloir,
tout pas simplement. Pas d'électricité aussi, hein.
Voilà, certainement. En fait, regardez, voir ce qu'ils voient, en fait, le sol.
Allez.
Mais ils pourront pas. Et en fait, les Français aiment beaucoup bloquer.
On marque une pause?
Oui. Pour rien.
Et on se retrouve tout de suite après pour continuer de parler de cette fameuse réforme des retraites. La bataille s'annonce rude ce jeudi. A tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30. Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et les informés, vous le savez, c'est avec aussi également Jean-Pierre Colombiès, mais également aussi Mehdi Jaziri, 19h20 derrière, ligne droite, justement, nous continuons de parler de cette réforme des retraites. Alors, à quoi peut-on s'attendre, justement, parce que, je vous le disais tout à l'heure, la CGT Énergie, elle prévoit de couper le courant aux élus qui soutiennent la réforme. Est-ce que c'est aussi, franchement, bloquer la France comme ça et prendre en otage aussi les Français? C'est pas ça la démocratie.
Ils n'ont pas d'autre choix. Parce que comme on le disait hors antenne, de toute façon, Macron n'a même pas besoin du 49-3, sachant qu'il peut mécaniquement et naturellement obtenir le soutien des LR qui l'a demandé, cette réforme. Donc, et d'ailleurs, la réforme des retraites n'est ni plus ni moins qu'un copier-coller un peu ajusté du projet de loi, enfin du projet qu'avaient les LR. Donc, s'il présente le texte à l'Assemblée nationale tel que, il a toutes les chances d'être adopté.
Moi, je trouve qu'il a quand même mieux amené que les LR auparavant. C'est-à-dire que là, il a amené de manière un peu plus, il a mis en avant déjà tout le côté beaucoup plus social. C'est-à-dire qu'il y a aussi les 1 200 euros, je crois, de retraite minimum.
Oui, de retraite minimum.
Qui en soi n'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas du tout pour faire le partisan de la réforme des retraites.
Excuse-moi, ce sera pas pour tout le monde, hein. Non.
Bien sûr, elle sera pas pour tout le monde.
Et là, il ment, une fois de plus, c'est du mensonge d'État. Parce que ce sera pas tout le monde. Ce sera à condition d'avoir une carrière pleine et totale, c'est-à-dire sans contrat. J'écoutais le témoignage d'une dame qui avait travaillé à temps partiel une partie de sa carrière. Elle n'y aura pas droit. Et il y en a plein de gens comme ça. Il y en a énormément de gens comme ça. Mais là où il y a un point important et intéressant, c'est la rhétorique qu'il utilise. Il t'a pas échappé que dans les discours des uns et des autres, le sien et surtout celui des ministres qui font la retape sur tous les plateaux, il y a des mots-clés, le mot justice, le mot protection, et ça revient en boucle. Et ça s'appelle de la propagande, tout simplement. Parce qu'ils savent très bien que cette réforme, elle est inique dans l'état actuel des choses et du marché de l'emploi, les plus âgés notamment.
Alors justement, 26 élus interpellent Emmanuel Macron dans une lettre ouverte et ils appellent justement le chef de l'État, le président, à construire un nouveau pacte social. Alors ces signataires encouragent le président de la République à concentrer ses efforts pour l'année à venir sur les chantiers, justement, les familles monoparentales, l'éducation, la formation des jeunes ou encore l'emploi. Est-ce que c'est une initiative qu'il faut, sur laquelle il faut peut-être s'attarder, Mehdi Jaziri? Améliorer le dialogue entre l'État et les collectivités.
Le truc, c'est que...
ça vous fait sourire.
Comment?
Ça vous fait sourire.
Comment? Enfin, je veux dire, aujourd'hui, est-ce qu'on peut le faire encore? Enfin, je veux dire, à un moment donné, on avait parlé d'améliorer, je crois que c'était pendant justement la première fois où les pétroliers, en septembre, je crois, ou en novembre. En novembre, où les pétroliers avaient déjà fait leur blocage, on avait dit, mais oui, mais il faut que les syndicats et l'État arrivent à communiquer, mais je veux dire, c'est pas possible, parce qu'en fait, il y a déjà une bataille de communication qui est en train de se faire, il y a des repositionnements. Et il faut savoir aussi un truc, c'est que par exemple, ces fameuses collectivités ou ces fameux syndicats, je les mets dans le même groupe, je suis désolé, mais c'est pas la même chose. Si jamais essayent d'avoir un meilleur dialogue avec l'État et montrent ça comme un meilleur dialogue avec l'État, ils vont perdre tous leurs partisans et du coup ne vont plus fonctionner derrière. C'est ça le souci. Donc en fait, il faut vraiment mettre dans deux positions différentes. D'un côté, la communication, et de deux, la réalité de terrain. Et c'est ça le souci aujourd'hui.
Et les jeunes dans tout ça?
Les jeunes dans tout ça, écoutez, ils sont complètement perdus. Moi, je pense sincèrement qu'au niveau de la réforme des retraites, il y a des gens, on va leur dire, bon, réforme des retraites, ils y connaissent rien, eux, c'est réforme Macron, et puis c'est tout.
Ouais.
Et puis en fait, comme c'est réforme Macron, ils aiment pas Macron, ou ils aiment bien Macron, ils vont y aller ou vont pas y aller. En fait, le souci, c'est ça aussi, c'est la communication. Moi, j'ai pas à être là pour dire la réforme de la retraite est bonne ou mauvaise. Faut pas oublier que je suis journaliste, donc je me dois d'être neutre là-dessus. Mais en fait, je suis là juste pour dire que.
Ça n'empêche pas d'avoir une opinion.
Exactement, vous avez le droit de donner l'opinion. Ça, c'est vrai. Non, et vous pouvez le développer ici, d'ailleurs, sur cette antenne.
J'ai mon opinion.
Sans aucun problème.
Je vais me le garder très précieusement. Simplement, là où je vais vous dire ce que je pense, c'est que je trouve qu'en fait, au niveau de la communication, là, pour le coup, oui, c'est ridicule. C'est-à-dire qu'on a une communication qui est mauvaise. C'est-à-dire que les jeunes, par exemple, s'ils vont manifester, moi, je serais curieux de savoir, envoyer un journaliste faire un micro-trottoir et d'aller voir les jeunes, pourquoi est-ce que vous manifestez? Bah, parce que Macron, c'est un connard. Macron démission. On va dire, ils vont vous répondre que ça, parce qu'ils n'auront pas autre chose à vous dire. Allez voir des économistes, ils auront un début de réponse. Pas sûr qu'ils aient la fin. Alors vous imaginez des jeunes.
Oui, mais
Jean-Pierre Colombier.
C'est bien tout le mal de notre société actuelle. Oui. Il y a un manque d'investissement politique. Alors quand je dis ça, c'est pas un gros mot, hein, mais de la jeune génération et on le voit au fur et à mesure des élections, il n'y a plus de mobilisation de la jeunesse. 80% d'abstention chez les jeunes, c'est trop, c'est même inacceptable. Mm-hmm. Mais ça veut dire aussi que ça arrange certainement quelqu'un. Que quelque part, les jeunes ne s'expriment plus. Je me souviens des années 70 et 80, il y avait un vrai courant, un vrai élan de la jeunesse pour dire, on avait des débats passionnés dans les lycées, ça se battait presque d'ailleurs, hein, entre les communistes ou les socialistes et les conservateurs, par exemple. Tous ces débats ont disparu. Complètement. Et il n'y a plus du tout d'investissement. Mais moi, je les invite quand même à mieux réfléchir sur ce qui se passe, parce que quand on a 20 ans et qu'on s'imagine que la retraite, c'est très très loin, alors ça l'est et ça l'est pas en même temps, malgré tout, la réforme va les impacter considérablement.
Et je vais rebondir sur ce que vous dites. Il y a un truc qui est très grave, Adil. Ça, j'aimerais en parler. Sur la radio concurrente dans laquelle je suis, je ne dirai pas son nom, je vous rassure, Adil, on avait fait un débat passionnant. On avait parlé justement de l'épuisement chez les gens.
Oui, la lassitude.
Vous allez vous demander pourquoi est-ce que je dis ça. Et ben, je vais vous expliquer. Là où c'est très grave, c'est que ces jeunes-là, plus tard, ils seront adultes. Ils auront votre âge. Je suis jeune encore, je suis désolé. Vous êtes jeune aussi, je vous rassure.
Mais j'aimerais bien...
Voilà, quand ils seront plus âgés, quand ils seront matures, mûrs, et qu'ils devront faire des choix de famille, des choix d'hommes politiques peut-être. Le souci, c'est quoi? C'est qu'en fait, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui vous procurent de la mauvaise dopamine. Cette mauvaise dopamine, en fait, elle va vous pousser plutôt à aller consommer des vidéos sur les réseaux sociaux, à aller regarder du porno, à aller manger de la malbouffe. Et en fait, si vous voulez, finalement, vous allez devenir des espèces de zombies ambulants, fumer de la weed aussi. Ça rentre dans ce cadre-là. Et en fait, vous allez plus être intéressé par rien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous regardez le soleil à un moment donné et que vous regardez ensuite votre pièce, la pièce va paraître toujours plus sombre que le soleil. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va procurer de la dopamine, finalement, c'est ce qui va vous intéresser. Et tout le reste, ça va être pas du tout intéressant. Et c'est ce qui se passe avec les jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a ce petit,
c'est le téléphone que je montre. C'est le téléphone avec les réseaux sociaux et tout ça.
C'est le téléphone avec les réseaux sociaux.
Oui, c'est voulu, peut-être certainement. Je sais pas si c'est voulu, mais en tout cas.
C'est Netflix. C'est la malbouffe, mais c'est tout ça, c'est l'argent facile, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette musique-là justement, c'est toute cette culture-là qui fait qu'en fait on devient des consommateurs. Oui. Et là où c'est
plus
malin
citoyens,
pour les entreprises, qui participent à ça, c'est qu'en fait finalement les entreprises sont les grandes gagnantes de tout
bien
ça.
Sûr.
C'est-à-dire qu'on a des zombies qui sont là que pour consommer.
Exactement. Les zombies.
Exactement. Bah oui, non, mais on a des zombies qui sont là que pour consommer, excusez-moi de le dire.
Et la radio concurrente dans tout ça, c'est quoi?
Et ben, c'est toujours plus facile de leur vendre des choses plutôt que de leur dire, bah écoutez, vous allez vous intéresser aux affaires du pays. Essayer de comprendre un peu ce qui se passe dans ce pays. La réforme des retraites, excusez-moi, mais personne n'y comprend rien. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de. Que tout le monde parle, tout le monde dit je suis pour, je suis contre.
La meilleure illustration.
J'avais compris quelque chose déjà.
La meilleure illustration de ce qu'il vient de dire, c'est de regarder un peu la télé. Et quand on regarde un
il
peu.
Il vous plaît, mais je dis rien.
Moi, j'aime bien, ouais.
Vous aimez bien son. Cette pugnacité des jeunes, là.
Et puis surtout une justesse d'analyse qui manque gentil, à beaucoup de son âge, justement. Mais quand vous regardez la télé, vous avez droit à quoi? C'est des émissions trois quarts débiles. Alors quand c'est pas les Marseillais contre le reste du monde, après c'est l'île de la tentation, je sais pas quoi.
Oui, c'est des débats politiques.
Voilà. Non mais toutes ces émissions ont tout un but. Parce qu'il n'y a pas que ça, je pourrais en citer d'autres encore. Elles vous desservent. Voilà. Ouais. Vous enlèvent toute capacité d'analyse. Et tout de suite après, vous avez des pages
pubs. La dopamine.
Vous avez des pages pubs.
Il y a de la bonne et de la mauvaise dopamine.
Et vous avez des pages pubs. Et ces pages pubs, à longueur de minutes et de minutes qui sont interminables, plus encore que sur Beurre FM, vous incitent à consommer de la merde.
J'ai une dernière anecdote à ajouter. Vous allez rire.
Allez-y.
Vous voyez TikTok. Il y a deux TikTok. Il y a le TikTok occidental et le TikTok chinois. En France. Il n'y a aucune limite, on partage des vidéos, on voit des filles à poil, on voit des histoires marrantes, des bêtises à tout va, etc. En Chine, TikTok a un but éducatif. Ah. TikTok, pour les gamins, il y a 40 minutes d'utilisation, pas plus. C'est réglé déjà dans l'application. Et puis autre chose, quand on va voir un occidental un Américain. Il y a eu une étude aux États-Unis, j'ai plus le pourcentage, mais il y a eu une étude aux États-Unis, on demandait aux jeunes qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Ils répondaient en masse influenceurs.
Ouais. C'est vrai.
On allait voir les Chinois, la majorité des enfants ont répondu astronautes. Excusez-moi, mais on voit vraiment la différence.
Y a différence. On voit la différence, ouais.
Oui,
absolument. Ben écoutez, merci messieurs. Merci Amédi Jaziri, vous revenez quand vous voulez. Oui, déjà, c'est la fin. Ben vous revenez quand vous voulez.
Oui, ben avec plaisir.
Semaine prochaine, tiens, face à Jean-Pierre Colombès.
Ben écoutez, avec plaisir.
Merci. Ah, je rappelle donc, président de l'Alliance du Savoir, mais également jeune journaliste. Jean-Pierre Colombès, auteur, mettant, non pas mettant en scène, auteur. Auteur, ancien commandant de la police et porte-parole des policiers indépendants.
Voilà, et acteur quand il le pourra plus encore.
Absolument, on vous le souhaite. Hein.
Ben, je sais pas, il y a peut-être.
Vous avez tout, vous avez la gueule, vous avez le profil, vous avez tout là.
Adil, dites-le s'il y a un réalisateur qui veut tourner un film.
Chers amis, réalisateur. Voilà. Chers amis, le message est lancé.
Voilà, il est lancé.
Jean-Pierre Colombès.
Je suis disponible.
Vous nous appelez au 01 53 48 3000.
Sinon, les petites annonces avec Vanessa le matin.
Oui, aussi. Voilà. Aussi. Merci à la réalisation, c'était Anthony. Et aux nombreux, nombreux auditeurs.
Qu'on salue, bien évidemment.
Et moi, je les remercie. Voilà. Bilal Lehmann, c'est de 20h à 21h. Ensuite, c'est Vanessa à partir de 21h jusqu'à 23h. Quant à moi, je vous retrouve demain avec autant de plaisir. Mais surtout...
On ne lâche rien.
Vous avez loupé un chapitre.
Et oui, bah oui.
On ne lâche rien.
Je crois que ça va changer, 2023.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.